Bienvenue sur la chaîne de l'Église Nouvelle-Vie-Longueuil. Je suis le pasteur Claude Wood. Merci de nous suivre chaque semaine pour plonger ensemble au cœur de la parole. Je prie pour que ce message t'édifie et t'encourage à t'approcher de Dieu. Bonne écoute.
Bonne nouvelle à vous annoncer ce matin. La première est que les inscriptions sont ouvertes pour la session hiver 2024 à l'ETF. Vous avez l'adresse du site Internet ici. Visitez le site Internet. Vous avez toute l'information. On offre des cours. Vraiment, c'est une valeur à votre porte. Hein? C'est juste, c'est une valeur, une formation d'haute qualité que vous êtes offert en présentiel, juste l'autre côté, l'autre bord de la rue, à l'ETF, ou en ligne, des cours, plusieurs cours en ligne, haute qualité, avec accès aux professeurs aussi par Zoom. Alors, je vous invite à visiter le site Internet pour voir s'il y a un cours qui vous intéresse. Peut-être que ce serait les livres prophétiques. Moi, j'enseigne les livres prophétiques de la Bible pendant 5 mercredis pendant la session. Seulement 5 mercredis toute la journée. Il y a la vie spirituelle chrétienne, il y a les religions mondiales, plusieurs cours pratiques, bibliques, théologiques. Alors, visitez le site Internet pour vous inscrire pour la nouvelle année à l'ETF. Deuxième bonne nouvelle, j'ai appris hier soir que j'ai un autre petit-fils qui arrive bientôt. Un deuxième petit-fils, j'ai appris ça hier soir. Les Lecomte multiplient. C'est bonne nouvelle pour nous, ça. Je ne sais pas si vous savez, mais moi, j'ai eu 60 ans ce mois-ci. J'ai eu 60 ans il y a deux semaines, le mois de novembre. Je sais que vous êtes surpris, hein? 60 ans? J'étais sûr qu'il avait 70 ans, lui. Ça, c'est 39 ans de mariage. Non, ça, 39 ans de ministère pastoral qui fait ça. Mais merci. Merci pour toutes les belles paroles, les prières, les souhaits, les paroles encourageantes pour m'aider à fêter les 60 ans. Merci à tous et chacun de vous. Merci aussi, surtout merci au Seigneur. Merci Seigneur pour 60 ans de faveur de Dieu non méritée, la grâce du Seigneur. Merci Seigneur, 60 ans de ministère, de famille, des collègues, des amis, des partenaires, des bons amis, la famille. Moi je peux témoigner que le Seigneur est bon. Le Seigneur est fidèle dans les hauts et les bas, les victoires, les défaites, les vallées, les montagnes, les tempêtes. Le Seigneur est fidèle. Et je dis merci, Seigneur. 60 ans de faveur non méritée, la grâce du Seigneur. Et combien peut aussi dire avec moi, merci, Seigneur, pour ta fidélité. Wow! Ça mérite plus qu'un applaudissement assis. Est-ce qu'on peut se lever tous ensemble? Comment? Tout le monde debout, d'en arrière jusqu'ici en avant, et applaudissez le Seigneur pour sa fidélité, année après année après année, décennie après décennie après décennie. Fidèle! On sert un Dieu, on a chanté, hein? On a chanté le chant de la fidélité, la bonté du Seigneur, et on peut justement, poussons un cri de joie, une ovation. Yeah! On est des trophées de la grâce de Dieu! Les témoins de la fidélité de Dieu. Le Seigneur est tellement bon, tellement un privilège et une joie de connaître le Seigneur, servir le Seigneur, et aussi dans la grande famille de l'Église Nouvelle Vie. C'est vraiment, vraiment une grâce. Moi, je suis heureux d'ajouter ma voix à cette série sur le livre des Actes. Nous devons une dette de gratitude à Luc pour son bon travail, l'écrivain Luc, l'apôtre Luc, pour son bon travail, ainsi qu'à son ami riche, Théophile, qui a parrainé ce grand projet. C'est pour ça qu'il adresse Théophile dans ces deux livres. C'est lui qui a parrainé le projet. Afin que ça soit distribué et lu par le plus grand nombre de personnes que possible jusqu'à nous aujourd'hui. Une dette de gratitude pour un livre qui nous donne l'information d'une valeur inestimable sur la genèse et le développement de l'Église naissante et croissante par et avec l'aide du Saint-Esprit. Comme Jésus est la star des évangiles, Le Saint-Esprit est la star du livre des Actes, mentionné plus que 80 fois dans le livre, où nous voyons le Saint-Esprit qui conduit, qui instruit. Le Saint-Esprit qui dévoile le péché, révèle des choses à venir, révèle la volonté de Dieu, révèle la gloire du ciel. Et autrefois, il est celui qui encourage, qui fortifie, qui oint, qui convainc, qui remplit de joie. Le Saint-Esprit qui guérit et qui agit d'une manière surnaturelle et miraculeuse, constamment, continuellement. Dont la raison que j'appelle le livre des Actes un livre de miracles. Et si nous voulons vraiment passer de la parole aux actes, il va falloir que nous passions de la parole au miracle. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? On veut passer de la parole au miracle. Alors, quelques mots ce matin au sujet des miracles, comme raconté dans le livre des actes, que je décris comme le miracle que nous vivons, le miracle que nous devenons et le miracle que nous attendons. Mais juste avant, quelques mots d'introduction au sujet des miracles. D'abord, il est possible d'être éduqué, même scientifique, et croire au miracle. Luc est l'exemple parfait de cela. Comme vous savez, Luc était un médecin très bien éduqué. Éduqué dans les meilleures écoles grecques, où la médecine était d'une qualité supérieure par l'influence des grands comme Hippocrate. D'où vient le serment d'Hippocrate, que les médecins citent encore aujourd'hui comme principe fondamental de la pratique médicale. Et je vous dis cela pour pas que vous pensiez que Dr. Luc était un médecin élémentaire, ignorant des meilleures pratiques de l'époque, non. Rendu à l'époque de Luc, la médecine a connu des grands avancements et était très scientifique et non pas mystique ou mystérieuse. Dont la raison qu'on est surpris que Luc inclut parmi ses premières histoires la naissance d'un enfant d'une vierge. Luc savait très bien que c'est pas comme ça que ça marche. Ce fut à l'encontre de toute sa connaissance et formation scientifique et biologique, mais il l'a inclus parce que c'était vrai. Dr. Luc a compris que ce n'est pas la manière habituelle des choses, mais entièrement possible avec Dieu. Et le miracle de l'incarnation est seulement un parmi plusieurs miracles racontés par Luc et accomplis par le Saint-Esprit, le même Esprit qui agit en nous et avec nous encore aujourd'hui. Est-ce que je peux entendre l'amène à ça? Et malgré son éducation, Luc n'avait pas honte de croire en un Dieu qui parfois impose sa volonté sur les lois physiques, scientifiques, biologiques et naturelles de cette terre. Un Dieu qui est au-dessus de toutes les lois naturelles et qui est capable d'agir à n'importe quel instant d'une manière surnaturelle. Il n'y a pas de misère à croire ça, Luc. Alors, il est possible d'être très bien éduqué et croire au miracle. Qu'est-ce que vous êtes avec moi? Et en deuxième, quand je parle de miracle, je ne parle pas de miracle sur demande. Demande ton miracle. Je ne parle pas de miracle à volonté comme au buffet. Je ne parle pas de miracle constant, ni de miracle narcissique, comme si Jésus est notre concierge personnel pour combler tous nos désirs égoïstes et parfois enfantins. Comme le miracle d'un stationnement près de la porte au centre d'achat le 22 décembre. Avez-vous jamais pensé que c'est peut-être la volonté de Dieu que vous stationnez plus loin pour que vous vous mettez en forme? Pense à ça, ce Noël. Ou le miracle d'avoir retrouvé nos clés de voiture. Ou le miracle que Dieu a aidé notre équipe préférée à gagner. Pas comme ça que ça marche, sauf si c'est les Steelers. Ou le miracle d'être surclassé sur une voile d'avion. Le miracle de conduire 50 km sur un tank de gaz vide. Ou trouver un rabais sur un TV écran plat 72 pouces, le miracle. C'est ce que j'appelle la banalisation de la prière et des miracles. Et je ne parle pas non plus de miracles qui remplacent le gros bon sens ou l'aide médicale ou l'effort ou le travail à laquelle nous sommes tous assujettis. Ni des miracles qui dépassent les lois de la semence et la récolte. Dont la raison que Paul a dit à son jeune protégé Timothée, l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Il a dit à Timothée, ben, il n'y a pas de couronne sans combat. Et que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Il n'y a pas de récompense sans l'effort. Alors, je ne parle pas des miracles qui remplacent le gros bon sens ou l'effort ou le travail. Dont la raison que j'ai répondu à un petit garçon qui m'a demandé, « Pasteur Mark, est-ce que je peux prier pour une bicyclette? » J'ai dit non. Il faut ramasser ton argent et payer pour. Là, il dit, « Mais Pasteur Mark, est-ce que je peux prier pour le pardon? » J'ai dit, « Oui, en tout temps, Dieu pardonne. » « Parfait, je vais voler une bicyclette et prier pour le pardon. » Belle réponse. Rendu à un certain âge, Dieu nous donne des capacités intelligentes et physiques pour qu'on s'en sert sans fier toujours sur une intervention ou une aide naturelle. On a un exemple parfait dans le livre des Actes, quand un ange a libéré Pierre de la prison d'une manière miraculeuse. L'histoire racontée et si bien communiquée par J.P. Baudry, qu'un ange qui a libéré Pierre de la prison d'une manière miraculeuse. Mais remarque ce que ça dit dans verset 10. « Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. » Aussitôt, l'ange quitta Pierre. So, le miracle était là quand que Pierre avait besoin, mais après ça, il dit, « Ben va, vive ta vie. » Le miracle est là quand nous avons besoin, mais après ça, vivez votre vie. Un peu comme Israël dans le désert. Les enfants d'Israël mangèrent la manne pendant 40 ans parce qu'ils étaient dans le désert. C'était nécessaire, le miracle de la manne. Jusque leur arrivée dans un pays habité. Où la manne, c'est ça. Et les enfants d'Israël n'eurent plus de manne. Ils mangèrent des produits du pays de Canaan cette année-là. Alors, rendus dans la terre promise, ils ne pouvaient pas se dire les uns aux autres, « Mange la manne! » Parce que la manne était finie. La manne était là, dans le désert, quand ils avaient besoin de miracles. Mais rendu dans le pays où ce qu'ils pouvaient travailler la terre, mais c'était plus nécessaire le miracle. Ils pouvaient travailler la terre, semer, arroser, récolter. Et Dieu les laisse faire. Car Dieu cherche des enfants, mais non pas des enfants gâtés. Les miracles de Dieu ne sont pas pour faire ce qui est possible par nos propres forces ou moyens, mais ils sont là, ne comprenez bien. Ils ne sont pas là pour remplacer notre force, notre intelligence, nos moyens, les choses qui sont possibles pour nous. Mais les miracles sont là, oui, mais sont là pour les situations et circonstances et besoins impossibles, hors notre contrôle, au-delà de nos forces, des situations que nous vivons tous. C'est pour ça que je prie souvent, « Seigneur, je fais mon possible, mais je fie sur toi pour l'impossible. » Une bonne main d'applaudissement pour un Dieu qui est capable de faire l'impossible. Il nous donne des miracles quand les miracles sont nécessaires. En troisième, les miracles, selon Luc, sont presque toujours reliés à la mission. À la mission. Est-ce que les miracles sont possibles? Oui. Est-ce que le Saint-Esprit opère encore des miracles? Oui, mais presque toujours en rapport avec la mission de l'Église. Le livre des Actes est une histoire de miracle, certainement, mais il est aussi une histoire de mission parce que les deux marchent main dans la main. Comme Pasteur Claude a si bien dit à la réunion de prière, la puissance n'est pas seulement pour nous à l'intérieur de l'Église, ni seulement pour ma bénédiction, ma guérison, mais pour ceux de l'extérieur, pour le salut des âmes et la guérison d'une nation. Alors, nous réclamons les miracles des Actes aujourd'hui, mais principalement pour nous aider dans notre mission. Parce que l'Église est en mission. Les Évangiles nous décrivent la naissance et la mission de Jésus jusqu'à son enlèvement au ciel. Le livre des Actes nous décrit la naissance et la mission de l'Église jusqu'à son enlèvement au ciel, mais qui n'est pas encore arrivé. Alors, en attendant l'enlèvement, nous continuons la mission commencée par Christ et continuée par l'Église en Actes il y a 2000 ans jusqu'à aujourd'hui, ici au Québec, en 2023. Et les miracles qui accompagnent les chrétiens et l'Église en acte sont les miracles qui nous accompagnent dans notre mission aujourd'hui, car la mission continue. Alors, non seulement que nous lisons et parlons du livre des Actes, mais nous le vivons. Ce qu'ils ont vécu, nous le vivons. Et les miracles qui vivaient l'Église dans le livre des Actes sont devenus nos miracles, car nous sommes aussi en mission. C'est la mission qui attire les miracles. Et ça, ça vaut la peine de répéter, c'est la mission qui attire les miracles. Qu'est-ce que je peux entendre en main à cela? C'est la mission et les miracles qui travaillent main dans la main. Alors, de la parole aux actes, c'est aux actes miraculeux associés à la mission. Alors d'abord, le miracle que nous vivons à l'heure actuelle. Il est de mon opinion que qu'est-ce que nous vivons en ce moment n'est rien moins qu'un miracle. C'est le miracle de la croissance, de la multiplication, de la provision. Mais d'une manière accélérée, comme Pasteur Claude a décrit à la réunion de prière, on est émerveillé par la croissance et la multiplication exceptionnelle sur nos sites à Longueuil. 1000 personnes à une réunion de prière, des centaines d'ados, des centaines et des centaines de jeunes adultes, tous qui prennent place aujourd'hui, on est émerveillé. C'est comme dans le livre des Actes. 3 000 âmes sauvées à la Pentecôte après un sermon. Mieux ça qu'un converti après 3 000 sermons, qui est malheureusement une réalité pour certains. Et par la suite, Luc parle du nombre de convertis et de disciples qui multiplient en acte 6. Par la suite, un réveil dans la ville de Samarie en acte 8, la multiplication des églises dans la ville de Jérusalem et Joppé en acte 9, le réveil surprenant chez les Italiens, les premiers non-juifs en acte 10, et par la suite en Antioche en acte 11 et en Éphèse en acte 19. Partout le livre des Actes, l'Église avance et perce dans des villes et sur des îles, dans des synagogues, des maisons, des prisons et des régions. Une histoire après l'autre, avec le salut des petits groupes ou des vastes multitudes, dans des lieux publics ou dans des foyers privés. Parfois, des villes entières qui sont converties et parfois, c'est des individus seuls, comme Paul sur le chemin de Damas, l'eunuque éthiopien dans le désert, le geôlier dans sa prison. C'est l'histoire du miracle d'une église qui avance, qui perce, qui croît partout. Alors, si nous voulons résumer le livre des Actes en un mot, ça sera croissance surnaturelle, miraculeuse, et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Bonne main d'applaudissement pour la croissance qui continue par l'aide du Saint-Esprit, le miracle de la croissance. Et le plus surprenant de tout est que ce phénomène de croissance et de multiplication dans le livre des Actes prend place dans un contexte de persécution, résistance, ridicule, hostilité, menace, violence même. Chaque victoire et chaque pas vers en avant est confronté par soi l'opposition, la moquerie, la persécution, des arrestations, des émeutes, des menaces. Rien n'était facile. Rien n'était facile pour la première Église. Mais malgré ça, l'Évangile est prêché, le nom de Jésus est glorifié et l'Église est multipliée, entièrement miraculeuse. Et moi, je dis que le miracle des Actes est le miracle de l'Église Nouvelle Vie aujourd'hui. Car la croissance et la multiplication que nous vivons, et moi je témoigne comme le pasteur associé, comme la personne qui est impliquée et comme responsable des lancements et développements de nos multisites, et je vois que la croissance et la multiplication que nous vivons arrivent malgré le contexte laïque et anti-religieux de notre société. L'argent entre malgré le climat économique précaire et difficile que tout le monde vit. On est émerveillé. Wow! Le miracle que nous vivons, comme dans le livre des Actes. Je compare ce que nous vivons non seulement à l'Église en Actes, mais au peuple d'Israël en Égypte. Écoutez, ici, ça dit, les enfants d'Israël, il est sur l'écran le passage, furent féconds et multiplièrent. Ils s'accrurent et deviennent de plus en plus puissants. Et le pays fut rempli. Il s'élevait sur l'Égypte un nouveau roi. Puis il dit à son peuple, « Voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Allons, montrons-nous habiles à son égard. Empêchons qu'ils ne s'accroissent. » Et on établit sur lui des chefs de corvée afin d'accabler le travaux pénible. Mais plus qu'on l'accablait, plus il multipliait et s'accroissait. Et l'on prit en aversion les enfants d'Israël. Alors les Égyptiens réduisent les enfants d'Israël à une dure servitude. Ils leur rendirent la vie amère par de rudes travaux en argile et en briques et par tous les ouvrages des champs. Et c'était avec cruauté qu'ils leur imposaient toutes ces charges. Et le roi d'Égypte parlait aussi aux sages-femmes des Hébreux, nommées Chifra et Pua. Il dit, « Quand vous accoucherez les femmes des Hébreux et que vous les verrez sur les sièges, si c'est un garçon, fais-le mourir, si c'est une fille, laissez-la vivre. » Mais les sages-femmes craignaient Dieu et ne firent point ce que leur avait dit le roi d'Égypte. Et laissèrent vivre les enfants. Et Dieu fit du bien aux sages-femmes et le peuple multipliait et devient très nombreux. La croissance, malgré l'opposition, le menace, la persécution, le mépris et même des attaques violentes. Et cette histoire, comme l'histoire de l'Église en Actes, nous démontre que quand le Seigneur a sa main sur un peuple, aucune force médiatique, politique, religieuse ou satanique peuvent l'empêcher de fleurir. Come on, une bonne main d'applaudissement. Si Dieu veut bénir, il va bénir. Nous vivons le miracle d'une Église qui fleurit malgré la culture laïque de notre province. L'hostilité et l'indifférence des médias, les mensonges et les attaques de l'ennemi et les tentatives de rendre l'Église silencieuse ou obsolète. Et comme avec Pharaon, j'imagine que la croissance et l'avancement des Églises chrétiennes comme nouvelle vie aujourd'hui doit confondre les chroniqueurs, animateurs, professeurs, journalistes, analystes québécois qui dénigrent l'Église et la rejettent comme une entité datée, insignifiante, qui annonce sa mort depuis des années maintenant. Mais la bonne nouvelle est que l'Église de Christ n'est pas branchée sur un respirateur artificiel, elle ne respire pas son dernier souffle, elle est vivante et forte et avance avec le souffle de Dieu, le pneuma qui remplit ses voiles et ses poumons. Commande encore une bonne main d'applaudissement. L'Église du Seigneur est vivante et avance. Et va continuer à confondre ses ennemis et détracteurs. L'Évangile sera validé et le Seigneur ressuscité, glorifié comme qu'il est ici au Québec en 2023. J'ai l'impression qu'en même temps qu'il y a une descente rapide vers la dégradation et la décadence, accélérée depuis la fin de la pandémie, que nous vivons un élan spirituel et que c'est rien que le début. Non pas dissimulaire que l'Église en acte, qui prêchait Jésus dans une culture romaine idolâtre, décadente, hédoniste et perverse, sous les empereurs dérangés et maniaques. Mais l'Église avance, les âmes sont sauvées et le nom de Jésus est prêché. J'ai l'impression comme si le plus que la noirceur intensifiée, le plus que la lumière brille, comme prophétisé par Isaïe. « Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité, traduit en anglais « deep darkness », l'obscurité profonde couvre les peuples, mais sur toi, l'Éternel se lève, sur toi, sa gloire apparaît. Wow. » Ou encore, comme le peuple de Dieu en Égypte, encore une fois, ça nous dit « Il y eut d'épaisses ténèbres dans tout le pays d'Égypte et on ne se voyait pas les uns les autres. Mais il y avait de la lumière dans les lieux où habitaient tous les enfants d'Israël. Quand Dieu veut briller, il va briller et il brille en ce moment. » Come on, une ovation pour dire « Merci Seigneur que tu brilles aujourd'hui. Malgré la noirceur, Seigneur brille. » Il brille en ce moment, nous avons la joie non seulement de témoigner, mais d'y participer. Nous devons prendre un instant pour louer Dieu pour ce qu'il fait. De dire merci Seigneur que malgré la noirceur, Seigneur, l'épaisse ténèbre à l'extérieur, merci Seigneur que la lumière de l'Évangile brille, la lumière de Christ brille, la lumière de la présence de Dieu brille en nous, chez nous, à travers de nous et sur nous, nos vies, nos foyers et notre Église. Nous sommes entièrement indignes, mais tellement reconnaissants, brille encore Seigneur. Est-ce qu'on peut lever nos deux mains vers le Seigneur pour un instant partout, dans, ici, dans cette salle. Levons nos deux mains vers le Seigneur, puis juste prenons un instant pour dire merci Seigneur. Merci Seigneur pour la lumière qui brille chez moi, en moi Seigneur, ta faveur sur l'Église, nos vies, nos maisons, nos foyers Seigneur. Malgré Seigneur les ténèbres et l'obscurité qui couvrent la terre, merci pour ta faveur, la gloire de l'Évangile, la lumière de la présence de Jésus. Tu es notre lumière Seigneur. Merci pour ta faveur. Merci que tu brilles aujourd'hui. Tu brilles au Québec. Tu brilles dans la francophonie. Tu brilles dans les nations. Tu brilles chez moi, Seigneur. Merci pour la lumière, la faveur de Dieu. La lumière brille malgré les ténèbres. Une bonne main d'applaudissement, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci. Brille encore, Seigneur. Encore plus, encore plus. Ça, c'est le miracle que nous vivons. Maintenant, un mot sur le miracle que nous devenons. Par la prière. S'il y a une chose évidente que Luc veut nous communiquer, c'est que l'Église avance sur ses genoux. Et qu'il est possible qu'au-delà de témoigner des miracles, il est possible que nous devenions des miracles pour d'autres personnes par la prière. Un de mes exemples préférés de cela est l'histoire de Pierre et Corneille, comme racontée en Actes 10. Il y a un Juif d'un côté puis un Italien de l'autre. Deux hommes complètement différents. Deux villes différentes, deux cultures différentes, deux arrière-plans différents, deux ethnies différentes, mais liées ensemble par la prière. Et d'une manière fantastique, Luc nous raconte comment les histoires de ces deux hommes s'unissent dues à la prière. D'abord, nous avons Corneille, un soldat italien qui, malgré les 1001 dieux des Romains, lui, il aime et craint et prie le seul vrai Dieu. Et il prie ce Dieu en faveur de son peuple, les Romains, les Italiens. Ça nous dit qu'il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu et priait Dieu continuellement. Et là, en même temps, nous avons Pierre dans une autre ville, Joppé. Et lui aussi prie. Pierre monta sur le toit vers la sixième heure pour prier. Et pendant que Corneille prie, Dieu lui demande d'aller chercher Pierre pour que Pierre annonce l'Évangile à son peuple. Dieu dit à Corneille, « Tes prières sont montées devant Dieu. Combien sont heureux que nos prières montent devant Dieu. » Dieu entend nos prières ne sont pas vaines. Vos prières et mes prières montent et au bon moment, de la bonne façon, Dieu va descendre avec une réponse. Est-ce que je peux entendre un amen à cela? Il dit, « Corneille, tu as prié et prié et prié. » Et ce n'était pas vaine, ce n'est pas du temps gaspillé. Tes prières ont monté vers Dieu. Et là, c'est le moment pour la réponse. Ne lâchez jamais de prier. Nos prières montent devant le Seigneur. Il dit, là, je réponds. J'ai une réponse, une solution pour toi et ton peuple. Envoie maintenant des hommes à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre. Là, il faut comprendre, ça, c'est impensable et impossible comme mission. Car jamais Pierre acceptera d'entrer dans la maison d'un non-juif. Il va rentrer dans la maison d'un Romain, les archi-ennemis des Juifs, les tyrans, les persécuteurs et oppresseurs, pour leur offrir le salut en plus. Mais pendant que Corneille prie, Pierre prie aussi. Et le Seigneur lui prépare pour aller chez Corneille, par une vision afin de corriger Pierre sur ses préjugés. Et vous connaissez l'histoire avec un drap des animaux, puis il dit, « Mange, oh non, moi je ne mange pas ce qui est impur. » Et là, la voix de Dieu se fit entendre. « Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. » Et l'Esprit lui dit, « Voici, trois hommes te demandent, lève-toi, lève-toi, descends et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. » Le lendemain, il se leva et partit avec eux. Et là, par le message de Pierre, toute la maison de Corneille a été convertie et remplie de l'Esprit d'un coup. C'était la Pentecôte des gentils comme celui des Juifs en Actes 2. Quelle merveilleuse histoire! Parce que parfois, quand nous prions, nous recevons une réponse, mais autrefois, nous devenons la réponse. Corneille a obtenu et Pierre a devenu. Alors, prions. Mais non seulement pour obtenir, mais pour devenir. Pour devenir la réponse à la prière de quelqu'un d'autre. Ne priez pas seulement pour obtenir un miracle, mais priez pour devenir le miracle pour quelqu'un d'autre. Quelqu'un que vous ne connaissez même pas possiblement, mais qui est en train de prier Dieu pour un secours, une réponse, une personne. Comme Pasteur Claude a prêché les deux messages sur un monde qui crie au secours. Il y a un monde à l'extérieur de l'Église qui crie au secours, au secours, au secours. Et prions pour devenir la réponse à la prière de ces personnes-là. Seigneur, on veut obtenir des miracles, mais on veut aussi être des miracles. Fais de nous des miracles pour quelqu'un d'autre qui a besoin de miracles. Qu'est-ce que je peux entendre en amène à cela? On prie pour obtenir et pour devenir. Corneille a obtenu, Pierre est devenu. Parfois, Dieu pourvoit par la prière, comme qu'il a pourvu un messager pour Corneille et son peuple, mais autrefois, Dieu prépare par la prière, comme qu'il a préparé Pierre pour aller chez Corneille. Et comme qu'il est fait avec Paul et Ananias, vous connaissez l'histoire. Après la conversion dramatique de Paul sur le chemin vers Damas, où ce qu'il allait pour persécuter l'Église et massacrer l'Église vers la ville de Damas. On connaît l'histoire, il est frappé d'aveuglement, une révélation de Jésus. Il est arrêté pendant 3 jours. Et pendant 3 jours, Paul, qui était appelé Saul de Tarse à ce moment-là, puis par la suite, son nom a été changé pour Paul. Mais dans l'histoire, c'est Saul de Tarse, mais c'est l'apôtre Paul. Et ça nous dit qu'au même moment que lui priait, le Seigneur visite un autre homme qui priait, Ananias. Alors, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. C'est remarquable. Ça, c'est la ville dont Paul, Saul de Tarse, était en route pour massacrer les croyants. Sauf celui qui était sur le bord d'être une victime de Saul devient la réponse à la prière de Saul. Combien sont heureux que Dieu est capable de renverser des situations d'une manière fantastique et miraculeuse. C'était Paul qui allait vers Damas et là c'est Ananias qui va vers Paul pour prier avec lui. Complètement renversé. Wow, quelle histoire! Parce qu'il y avait un homme qui priait. Le Seigneur lui dit dans une vision... Ananias, il répondit, « Me voici, Seigneur. » Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un homme, Saul de Tarse. » Car il prie encore, c'est la prière qui est la clé. Et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait, lui imposait les mains afin qu'il recouvrait la vue. Ananias répondit, « Seigneur, 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 Seigneur. » Comment? Saul de Tarse? « J'ai appris de plusieurs personnes. » Tous les maux que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem, il y a des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom, Seigneur. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Ananias sortit. C'est un peu comique. Il ne voulait pas y aller jusqu'à temps que le Seigneur dit « Il va souffrir pour mon nom. » Il dit « Je vais. » Parfait. Tout de suite, il sort. « Il va souffrir. J'y vais. » C'est quand même comique, hein? Ça prenait ça. « Il va souffrir pour moi. » Correct. « J'y vais. J'y vais. » Et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposait les mains à Saul en disant « Saul, mon frère, le Seigneur Jésus m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles, il recouvra la vue, se leva, fut baptisé, aussitôt il prêchait dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Wow! Si la prière nous libère des deux obstacles à une vie d'impact. Deux obstacles au miracle. La crainte et l'orgueil. La crainte élitiste et égoïste. Pierre a dit, ce peuple n'est pas digne de l'Évangile. Ananias a dit, cet homme n'est pas digne de l'Évangile. Ça libère de leur orgueil, mais ça les libère aussi de la crainte. Pierre avait la crainte d'aller chez Corneille parce qu'il dit, qu'est-ce que les frères vont dire? J'ai pas le droit de mettre mes pieds dans cette maison-là. Qu'est-ce que les frères vont dire? Il avait la crainte de ses collègues. Ananias, je veux pas rentrer dans cette maison-là, ils vont me tuer. C'est Saul de Tarse. La crainte et le doute nous paralysent dans la mission et limitent notre impact. Et nous voient des belles opportunités. La crainte d'y aller, la crainte de donner, la crainte de s'impliquer, la crainte de risquer. La crainte d'essayer, d'obéir, initier, de parler tout simplement. La crainte de l'échec, du manque, des opinions des autres. La crainte du ridicule, du rejet, la moquerie, la persécution, la réaction des gens. Et le mélange de la crainte et l'orgueil est fatal pour ceux qui désirent devenir la réponse à la prière de quelqu'un, vivre l'aventure de la foi et passer de la parole seulement aux actes. Mais dans la prière, Jésus est capable de nous libérer comme qu'il a fait avec ces deux hommes. Il y a une puissance dans la prière, une présence, une parole pour vous, moi, nous, malgré nos craintes, malgré nos préjugés. Il est possible que nous devenions le miracle parce que Dieu peut nous préparer et nous libérer en sa présence. Est-ce que je peux entendre un amen à cela? Dis, yes, Seigneur, fais ça avec moi. La manière que Dieu peut parler, préparer, envoyer, diriger, connecter des vies, des circonstances pour bénir et produire la vie quand on lui donne le contexte par la prière est étonnant et inspirant. Comme dans ces histoires. Quatre hommes qui prient produisent deux événements les plus importants dans l'histoire de l'Église et pour l'Évangile. La Pentecôte des gentils, l'arrivée du Saint-Esprit sur les non-juifs pour être le signe et le sceau que Dieu aime et sauve tous. L'Évangile est pour tous les peuples et toutes les nations, une vérité dont nous sommes les bénéficiaires encore aujourd'hui. Et aussi le lancement du ministère le plus important de l'histoire de l'Église, l'apôtre Paul avec Ananias et Paul qui prie. Puis encore une fois, dans ces deux histoires, le miracle est associé à la mission, mais impossible et impensable sans qu'il y ait des hommes qui prient. Alors ne sous-estimez jamais ce que Dieu peut faire avec un peuple ou même une personne qui prie. Combien de possibilités sont manqués, gâchés, perdus par la simple négligence ou refus de prier. Moi, je ne veux pas passer à côté aucun d'eux et vous non plus. Et à l'aube d'une nouvelle saison, d'une nouvelle année, à l'Église Nouvelle Vie, prions avec une attente, prions avec une anticipation, l'anticipation d'obtenir une réponse et de devenir une réponse. Et n'oublions jamais, ça nous dit que Corneille priait Dieu continuellement. Ne lâchez pas, ne soyez pas impatients. Dieu est là, Dieu attend, Dieu arrive au bon moment et de la bonne façon. Seigneur, on veut obtenir et devenir. Comment un bon applaudissement pour la puissance de la prière. Il faut prier pour vivre ces miracles-là. Mais ces miracles-là sont possibles si nous prions. Luc est clair, il nous enseigne ça. Obtiens, deviens. Ça, c'est les miracles que nous devenons. Le livre des Actes nous décrit le miracle que nous vivons, le miracle que nous devenons. Avec une vie chrétienne pertinente, excitante et d'impact. Qui débute avec la prière afin d'être équipé pour aller, pour participer avec notre temps, nos dons, notre argent, notre énergie, nos mains et notre voix pour le miracle que nous attendons. Il y a des miracles que nous vivons, il y a des miracles que nous devenons, mais aussi des miracles que nous attendons dans la nouvelle saison, dans la nouvelle année qui arrive. C'est le miracle d'encore plus. Le miracle d'un peuple en chaque ville et chaque village, ici au Québec, dans la francophonie. Parce que nous croyons ce que Dieu a dit à Paul en Actes 18. Le Seigneur dit à Paul en vision pendant la nuit, « Ne crains point encore, il y a toujours la crainte, la timidité. Hein, on est paralysé parfois par les insécurités, la crainte. » Encore une fois, il dit, « Ne crains point, mais parle, communique. Ne te tais point. » Car je suis avec toi et personne ne mettra la main sur toi pour faire du mal. Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Pourquoi parler et continuer de parler? Parce qu'il y a un peuple ici. Dieu dit à Paul, j'ai un peuple ici. Nous parlons à l'Église Nouvelle Vie. Nous parlons de tous les moyens. Nous parlons car nous croyons qu'il y a un peuple nombreux ici, un peuple nombreux au Québec, un peuple dans la ville et dans les régions, est, ouest, nord, sud. Alors, comme Paul, on ne craint pas, nous allons continuer à parler parce que nous croyons qu'un peuple nombreux dans cette province. Est-ce que je peux entendre l'amène à ça? On ne les voit pas tout de suite à l'œil nu, mais ils sont là. Il y a un peuple nombreux à gagner pour Jésus, un peuple à regagner par Jésus, car ne sous-estimez pas le nombre d'églises dysfonctionnelles qui existent ou qui ont existé depuis des années au Québec. Il y a au Québec une multitude de croyants désabusés, déçus, blessés, découragés par leur vie d'église qui cherchent un lieu pour être rafraîchis, restaurés, ressourcés et ramenés à Jésus, un peuple que nous sommes appelés à gagner, chaque ville et chaque village. Est-ce que je peux entendre un amen à cela. Il y a un peuple nombreux ici. Ça, c'est le miracle que nous attendons, qui est devant nous. Je sais que c'est fatigant de nager contre le courant. C'est parfois décourageant. Personne n'aime le rejet, le ridicule, la moquerie, la persécution. Mais pour avoir la récompense, il faut vivre avec la résistance. La résistance est inévitable. Les Actes nous enseignent qu'il y a toujours trois réactions au message de l'Évangile. Trois. On le voit souvent dans le livre des Actes. Il y a le rejet, parfois accompagné par la moquerie, le ridicule. Tu es fou, vous êtes fou, vous êtes folle. Après ça, il y a la curiosité, les gens qui s'intéressent. Et par la suite, la croyance. Juste un exemple, comme Paul en Athènes, en Actes 17, lorsqu'il a prêché en public, lorsqu'ils ont entendu parler de la résurrection des morts, les uns se moquèrent. Les autres dirent, « Nous t'entendrons là-dessus une autre fois. » Quelques-uns néanmoins s'attachèrent à lui et crurent. Alors, comme Paul, peu importe les réponses ou les réactions, nous allons continuer. Nous allons continuer. Il va toujours avoir des gens qui rient, qui se moquent, qui rejettent, qui blasphèment, des gens qui ridiculent. Il va toujours avoir ces personnes-là. Il y a des gens qui sont curieux, puis peut-être un autre moment, mais il y a un peuple ici qui attend la bonne nouvelle afin de croire et être renouvelé et connaître la vie abondante et nouvelle en Jésus-Christ. Alors, peu importe les réponses ou réactions, c'est pour ça que nous allons continuer à ne pas lâcher de prier, de parler, de planter, car nous croyons il y a un peuple dans les villes et les villages du Québec qu'il faut gagner. Est-ce que je peux entendre un amen à ça? On va juste continuer, continuer, continuer. Malgré la résistance, nous croyons qu'il y a une récompense. Nous allons continuer avec ce que j'appelle une mentalité winner. Une mentalité winner. Une mentalité gagnante, comme Paul avait. Je termine dans quelques instants, mais écoutez ce que Paul dit ici. C'est vraiment remarquable, cette mentalité winner. Paul, le zèle, la passion qu'il avait pour gagner les gens, malgré le ridicule, la résistance, les combats. Car bien que je suis libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous afin de gagner le plus grand nombre. Avec les Juifs, j'étais comme Juif, afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Avec ceux qui sont sans loi, comme sans loi, afin de gagner ceux qui sont sans loi. J'ai été faible avec les faibles afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Je fais tout à cause de l'Évangile afin d'y avoir part. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais un seul remporte le prix, courez de manière à le remporter. C'est ce qu'on appelle une mentalité gagnante. L'avez-vous remarqué? Fois après fois, il dit, on fait ça pour gagner, on fait ci pour gagner, on adapte ça pour gagner, on veut gagner le plus grand nombre, on veut gagner le prix des âmes. C'est ce qu'on appelle une mentalité gagnante, entièrement anti-fataliste. Antifataliste. Si tout est prédéterminé par Dieu, ces paroles de Paul sont un non-sens. Mais Paul n'était pas un fataliste, pensant que ben, tout est prédéterminé déjà d'avance, alors ça ne donne rien, peu importe ce qu'on fait, ça ne donne rien parce que les résultats sont prédéterminés. Non, Paul ici est un antifataliste. Et nous ne sommes pas des fatalistes non plus, nous sommes des stratagistes. On voit que Paul ici n'était pas fataliste, il était stratagiste. Paul parle ici d'avoir des stratégies pour gagner les Juifs, les Romains et les Grecs, la démographie de son époque. Il parle d'avoir des méthodes, d'une approche, un langage, des tactiques pour gagner le plus grand nombre. Et pour nous, ce n'est pas des Juifs, Romains et Grecs que nous cherchons à gagner, mais les Québécois et les Québécoises de toutes les couleurs, races, générations et genres, les Français, les Espagnols et même les Anglais. Est-ce que je peux entendre un amen à cela? On veut les gagner tous les nationalités. Combien c'est que même les Anglais ont besoin de Jésus? Merci Seigneur pour presque 200 personnes samedi dernier pour le lancement de New Life Church, Nouvelle Vie en anglais. L'ambiance de louange, d'adoration, de prière, d'intercession, c'était vraiment motivant. Et là, on se prépare avec une équipe de personnes en arrière la scène pour le lancement le 3 mars à 16h30 ici, New Life en anglais. Pourquoi? On a les mains pleines. On a les mains pleines avec les Français. On a les mains pleines avec les Espagnols ici. Il y a Drummondville. ville. Pourquoi les Anglais aussi? Parce que nous voulons gagner tous les Québécois et toutes les Québécoises de toutes les langues et les nationalités. C'est notre mission afin de gagner le plus grand nombre. C'est le miracle que nous attendons. Ne laissons jamais nos préjugés nous limiter à une race, une langue, une culture ou une génération. Notre mission est de gagner les nations qui sont chez nous. Mais ça n'arrive pas par accident, ça n'arrive pas par hasard. Ça arrive avec effort. Bobby Knight, le grand entraîneur en chef, coach de l'université, qui a gagné plusieurs championnats, il est décédé il n'y a pas longtemps. Il a dit, c'est très bien dit, ça s'applique à l'Église. La clé n'est pas seulement de vouloir gagner. Tout le monde le veut. C'est la volonté de se préparer à gagner qui est importante. Ça, c'est bien dit, ça. Tout le monde veut gagner. The will to win, the will to win. Il faut avoir la volonté à gagner. Tout le monde a la volonté à gagner. Toutes les églises ont la volonté de gagner. Tout le monde veut gagner. Mais il a raison. Il dit, c'est pas la volonté de gagner qui compte. C'est la volonté de se préparer pour gagner qui compte. Ça s'applique à l'Église. Et c'est justement ce que l'apôtre Paul a dit. Je fais tout. Tout ce qui est nécessaire. On veut gagner tout le monde. On veut gagner les Juifs, les Grecs, les Romains. On veut gagner notre peuple. Et de gagner un peuple n'arrive pas par hasard, mais avec de l'effort. Et avec une disposition qui est prête à changer si nécessaire, et s'adapter, et sacrifier, et faire ce qui est nécessaire pour gagner le plus grand nombre. Et moi, je prie que le Seigneur, pour le miracle que nous attendons, moi, je prie que le Seigneur nous révèle, qu'il nous révèle. Comment nous pouvons toucher le cœur des Québécois et Québécoises avec notre voix? Mais pas seulement notre voix, mais avec notre visage, nos paroles, mais aussi notre physionomie, avec ce que nous disons, mais aussi avec ce que nous dégageons. Non seulement par ce que nous disons et faisons, mais la manière que nous le disons et faisons. Car pour ceux qui viennent à l'Église pour la première fois et qui regardent l'Église, notre témoignage est plus important que notre titre, notre comportement est plus important que notre connaissance, et notre caractère est plus important que notre charisme. Ainsi que notre implication, service, générosité, créativité. Sachant que Dieu fait croître toutes les semences qu'on sème, même celles qui semblent être petites et insignifiantes. Et moi, je termine avec une parole encourageante de la part de Jésus en Marc 4. Il est sur l'écran. Le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé. Qui, lorsqu'on sème en terre, elle est la plus petite de toutes les semences qui sont sur la terre. Mais, lorsqu'il a été semé, il monte et pousse de grandes branches en sorte que les oiseaux du ciel peuvent habiter sous son ombre. Wow! Même la plus petite semence qu'on sème peut devenir quelque chose de significatif et avoir un impact. Et ça nous encourage de continuer à semer, en arrière la scène, en avant la scène, de toutes les manières possibles, un travail d'équipe, tous nos gestes comptent, tous nos sacrifices, nos implications, nos prières, nos dons, ça compte. La croissance d'un arbre est lente mais constante. La croissance d'un arbre est silencieuse et n'attire pas trop d'attention. Mais éventuellement, un arbre est beau. Parfois très beau, parfois glorieux, magnifique, impressionnant, et devient un sanctuaire, un lieu florissant et bénéfique qui représente la stabilité, la croissance, la protection, le confort. Un arbre donne, pourvoit, produit, bénit. Un arbre représente la vie et c'est à ça que nous aspirons. Et c'est pour cela que nous n'arrêtons pas de prier, de semer, implanter, travailler. Car l'Église, comme l'arbre, offre un lieu de refuge, de vie, de fruits, de protection, un sanctuaire. Moi, je crois que nous avons une opportunité en or aujourd'hui, l'Église de Jésus, d'être un sanctuaire, comme Jésus décrit ici. Il dit, ça devient un lieu de sanctuaire pour les gens d'habiter. L'Église a une opportunité en or d'être un lieu de sanctuaire parmi le chaos, la confusion, la cacophonie de la vie. Et de plus en plus, je crois que l'Église va attirer des gens qui vont trouver sécurité et paix dans ses feuilles, ses branches. La voie de raison, de calme, de confiance, de courage, un lieu d'espoir et d'amour, que tout comme un bel arbre va attirer l'attention. Nous avons une opportunité en or. Parmi la confusion, le chaos et les ténèbres de l'extérieur, nous sommes un lieu de lumière, un lieu d'espérance, un lieu d'amour. Viens au sanctuaire. Jésus est ici et Jésus tu offres le remède, le sanctuaire, la confiance, le courage, la liberté, la guérison. Seigneur, on va semer, semer et semer, et merci qu'éventuellement ça monte, ça croît et ça brille pour ta gloire. Est-ce que je peux entendre un amen à ça? Est-ce qu'on peut se lever tous ensemble, tout le monde debout, d'en arrière, jusqu'ici en avant? Levons nos mains vers le Seigneur et juste commencer.
Merci d'avoir écouté ce message. Si tu apprécies ce podcast, abonne-toi et partage-le à ton entourage. Chaque semaine, l'équipe pastorale de Nouvelle Vie et moi-même allons te partager des messages qui vont t'encourager dans ta foi. Tu ne veux pas manquer ça. À très bientôt.